réplique Où va l'Allemagne avec Joachim Bitterlich et Luc Rosenzweig. Avant les dernières élections au Bundestag, l'Allemagne était considérée par les élites européennes comme un modèle de gestion et d'ouverture. Elle était deux fois exemplaire. Elle avait bon en tout. Elle cumulait la vertu économique et la vertu morale, le refus du laxisme budgétaire et la Willkommenkultur. La rigueur en elle cohabitait miraculeusement avec la générosité. Le résultat des élections a brouillé cette belle image et l'inquiétude dans les hautes sphères succède à l'admiration. Le paysage politique allemand est bouleversé par l'entrée tonitruante au Bundestag de 90 députés de l'Alternative für Deutschland. Angela Merkel, à qui semblait promis un quatrième mandat tranquille sinon triomphal, a tenté sans succès de former un gouvernement avec les libéraux et les écologistes. Et la question se pose aujourd'hui de savoir si elle sera en mesure de reconduire la grande coalition des conservateurs et des sociaux-démocrates. Bref, l'Allemagne édifiante est devenue une Allemagne empêtrée. Pourquoi ? Comment ? C'est pour répondre à ces questions simples et vertigineuses que j'ai invité aujourd'hui le journaliste français Luc Rosenzweig et Joachim Bitterlich, qui, entre autres fonctions prestigieuses, a été directeur de la chancellerie fédérale et conseiller auprès d'Helmut Kohl entre 1987 et 1998. Commençons par l'AfD. Comment interpréter le succès de ce parti? Faut-il y voir un retour des vieux démons longtemps refoulés par le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale? Les verrous moraux que l'Allemagne a hérités de son histoire sont-ils en train de sauter sous nos yeux? Joachim Bitterlich.
Je ne pense pas qu'il y ait un retour aux démons. Et en effet, c'est un parti dangereux, oui, certes. Pour la première fois, un parti d'extrême droite avec plus que 13% entre au Bundestag. C'est un danger, oui. Vous avez partiellement, pouvait comparaître avec le Front National en France. En partie, c'est un phénomène est-allemand. Et vous avez en partie aussi un effet du mode de scrutin. Imaginez une seconde que l'Allemagne avait le mode de scrutin majoritaire à la française. Ce serait maximum peut-être 3-4 députés de l'AfD. Or, si les Français avaient le mode de scrutin à l'allemande, on aurait 150 à l'Assemblée nationale. D'où, première réflexion en Allemagne, il y a des premières voix qui parlent, est-ce qu'il ne devrait pas changer le mode de scrutin? Je reviens à l'AfD. Qu'est-ce que c'est l'AfD finalement? C'est un parti de contestation, en grande partie. Contestation contre quoi? Lorsque vous analysez l'électorat de l'AfD, vous voyez à peu près 60% qui viennent d'un milieu ouvrier, qui fait soit de l'extrême gauche ou bien droite, suivant le développement, suivant le mécontentement de l'électeur. Vous avez à peu près 20% sont ceux qui ont protesté, je dirais, contre tout ce qui vient de là-haut, de l'État et surtout de l'Europe. Et vous avez là-dedans aussi 20% à peu près extrême droite. Et là est le danger pour moi. Les partis politiques traditionnels, soit les SPD, soit la CDU, avaient espéré, comme dans le passé, que ce parti se réduise à rien. Or, nous avons eu en Allemagne un phénomène qui a propulsé, de quelque manière, ce parti contestataire, c'est suite à l'immigration. L'immigration, pendant un certain temps, hors contrôle, mais c'est moins l'immigration en tant que telle, parce que nous avons reçu pendant des années, regardez les années 80, regardez les années 90, des millions de réfugiés du monde entier. Je pense encore aux 500 000 ex-Yougoslaves au début des années 90, ou même dans les années 80, nous avions ce phénomène. Or, nous avons pour la première fois un phénomène additionnel dans ce contexte, c'est l'islam. Un certain tabou. On n'en parle pas, on n'aime pas en parler, en France comme en Allemagne. Et nous avons en même temps mélangé à l'islam radical, des attentats en France, en Belgique, en Europe et même dans le cœur de l'Allemagne, à Berlin. D'où, je dirais, cette peur, cette anxiété grandissante au sein de la population contre l'islam en premier lieu.
Luc Rosenzweig, quelle est votre analyse ?
Oui, je suis pour l'essentiel d'accord avec ce que vient de dire Joachim, mais je vais quand même apporter une nuance, et j'ai une petite différence avec lui, sur l'analyse sociologique de l'AFD. Puisque si je m'en réfère à l'étude parue dans Telos, d'un sociologue allemand qui s'appelle Klaus-Peter Schlick, qui a bien étudié l'électorat de l'AFD, il dit que la lecture socio-économique telle que vous la faisiez, Joachim, de l'électorat AFD, reste insuffisante. Une lecture culturelle doit y être ajoutée, puisque lorsque l'on regarde le niveau de revenus des électeurs de l'AFD, on voit qu'il est certes un peu inférieur à celui de l'électorat des autres partis, mais pas de manière
trop spectaculaire.
C'est pas le sous-prolétariat du nord de la France qui vote. Non, il y a en plus au sein de l'AFD toute une tendance. C'est-à-dire que l'AFD est une fusion de deux mécontentements. La première, celle que vous avez bien décrite, qui est le mécontentement par rapport aux réfugiés, au problème des réfugiés. Et la deuxième, c'est le mécontentement par rapport à la gestion de la question européenne, et notamment de l'euro, par le gouvernement.
Bien, mais je crois qu'on peut relier la dimension socio-économique et la dimension culturelle. Alors je vous citerai, cette fois-ci d'ailleurs, un penseur français, un historien, le plus grand de nos historiens, Michelet. En nationalité, c'est tout comme en géologie, la chaleur est en bas. Descendez, vous trouverez qu'elle augmente, aux couches inférieures, elle brûle. Donc, peut-être que les classes défavorisées, comme on dit, subalternes, ont une sensibilité identitaire plus forte que les élites et ressentent-elles plus profondément cette insécurité culturelle dont,
ce qui est le cas
dont on parle un peu partout en Europe.
Ce qui est surtout le cas en Allemagne de l'Est.
En Allemagne de l'Est.
Prenez par exemple la région de Dresde. C'est la seule région d'ailleurs qui, avant la réunification, ne pouvait pas recevoir la télévision de l'Ouest. Lorsque vous allez à Dresde, vous rencontrez une ville florissante au fond, reconstruite, mais de l'autre côté, une population qui se sent laissée seule, quelque part. Nos péchés suite à la réunification, on nous rattrape à certains égards. Une population qui est mécontente avec tout ce qui se passe, je dirais, là-haut.
Oui,
je parle d'un fossé grandissant entre ceux qui gouvernent et la population. Phénomène aussi visible en Allemagne, et non seulement en France ou dans d'autres pays, c'est clair, et qui s'exprime par un vote avec l'extrême droite. Et de l'autre côté, vous avez des sondages qui expriment que 3/4 de la population allemande est content avec son futur. Contradiction,
pas contradiction.
Oui, y compris, j'ajouterais, les électeurs de l'AFD.
Oui.
Puisqu'il y a 4/5 qui sont satisfaits de leurs conditions matérielles.
Oui.
Mais si vous voulez, pour dire, cet phénomène AFD ne tombait pas du ciel. Parce que si on observait un peu l'Allemagne pendant ces dernières années, il y a eu des phénomènes qui auraient dû nous mettre la puce à l'oreille. Et je vais en citer un. C'est le succès fantastique du livre de Thilo Sarrazin,
oui, j'allais en parler.
Qui s'appelle « L'Allemagne croit sa perte » de Schafzisap. Et qu'ont fait les élites.
Thilo Sarrazin, qui ne vient pas de l'extrême droite. Lui.
Non, qui vient du SPD.
Voilà.
Qui était, il était assez haut dans la
hiérarchie. J'avoue que c'est un ami.
Il a été sénateur.
C'est un ami.
C'est un ami avec qui je suis en désaccord de fond.
Mais ça reste un ami.
Sur son analyse.
Non, mais ce qui est intéressant par rapport à l'affaire Thilo Sarrazin, c'est comment a réagi, disons, l'élite politico-médiatique par rapport au succès phénoménal de son
Quelle
livre.
Quelle est sa thèse, Thilo Sarrazin?
Sa thèse, c'est que il y a incompatibilité du maintien du système d'État-providence allemand avec une immigration massive et tous les problèmes que ça pose.
Immigration islamique aussi. Il pose aussi le problème en termes culturels, je crois.
C'est un problème posé en termes culturels.
Voilà,
c'est-à-dire qu'il a des forts doutes sur l'assimilation des populations immigrantes. Voilà. Donc, il a été renvoyé, comme on fait des réductions ad lupenum en France, dès qu'on bouge une oreille sur ces questions. question-là. Il a été exclu du SPD.
La procédure est toujours en cours.
Et il a été voué aux gémonies par tous les grands médias.
Alors justement, je veux peut-être me faire pas vraiment l'avocat du diable, rassurez-vous, mais c'est ce mot d'extrême droite qui s'applique à tout ce qu'on appelle les populismes en Europe. Et ce mot, je voudrais non pas le contester, mais essayer de le problématiser avec vous. Parce que c'est vrai, il y a des éléments inquiétants dans l'AFD. Il y a, parmi les leaders, des gens qui ont des tendances révisionnistes en matière historique, c'est vrai. Mais je sais aussi que, par exemple, Mark Jungen, qui a été l'assistant de Sloterdijk à Karlsruhe, je ne veux pas compromettre Sloterdijk, il a pris ses distances avec lui, mais il est coprésident de l'AFD de Bade-Wurtemberg, et il a affirmé ceci, les nations européennes doivent remplacer la culture de l'autosuppression par la volonté de survivre. Et cette culture de l'autosuppression pouvait viser assez bien le patriotisme constitutionnel de Jürgen Habermas, puisque, selon lui, l'identité collective doit être purgée de toute dimension culturelle pour se réduire à l'adhésion à des principes universels énoncés dans une constitution. Voilà. Ce qui nous rassemble, ce sont des valeurs. Pas des mœurs, pas des traditions, pas une civilisation, mais des valeurs. Que des Allemands ne se reconnaissent pas dans cette vision éthérée du vivre ensemble, ça me paraît compréhensible. Peut-être faut-il y réfléchir avant de procéder à des analogies terrifiantes et avant de démoniser cette inquiétude, car elle devrait être prise en charge par tous les partis politiques. Qu'en pensez-vous, Joachim Bitterlich?
Je comprends votre pensée, votre réflexe. Et les Allemands, si vous voulez, ont été éduqués dans un sens depuis 1949, après la guerre, plus jamais.
Ouais, plus jamais.
C'est plus jamais.
Ni vide.
Ni vide. Était le sentiment, ou je dirais le lex populi, pour les Allemands. Or, les Allemands réunifiés, ils voient autour d'eux, je dirais, un certain réflexe national, voire nationaliste, qui ressurgit. On ne veut pas discuter ce soir sur la Pologne. Moi, je trouve ce qui se passe en Pologne est d'un côté normal, lorsque je prends en considération d'où viennent-ils, de 50 ans de communisme, ils ont essayé de se retrouver, et nous, Ouest-Européens, avec du mal, on essaie de les intégrer dans l'Union Européenne, sans réfléchir qu'ils ont leur propre agenda, et qui a une certaine place que j'appelle à retrouver la nation polonaise. D'où un certain développement, je pense que nous avons sous-estimé. Or, je pense que c'est valable aussi pour les Allemands. Les Allemands voient le voisin français, qui a un certain réflexe national, à beaucoup d'égards, et nous avons, quelque part, dans nos caractères, peut-être un défaut similaire. Helmut Kohl a appelé ça à l'époque, il avertit toujours les Allemands, « N'allez pas dans un sens « am deutschen Wesen soll die Welt genesen ».
C'est-à-dire
le monde doit se guérir à l'être allemand.
Par l'être allemand, oui.
Et Kohl a toujours averti les Allemands, faites attention à ça. Et là, il y a une certaine tendance, je dirais, dans le caractère des Allemands. Et entre l'Est et l'Ouest, vous appelez ça les Bessavessis, si vous voulez. Et d'où ce réflexe? Regardez, Emmanuel Macron dépose 73 propositions pour relancer l'Europe. Et le Français pense... Ah, les Allemands n'ont qu'à accepter ça. Or, non, l'Allemand voudrait en discuter. Et la même chose, c'est l'Allemand pense la meilleure façon pour guérir, si vous voulez, pour assainir l'union économique et monétaire européenne, l'euro, c'est suivez, s'il vous plaît, le bon exemple allemand, et tout marchera bien. Et là, nous avons un petit peu un caractère comparable, ce qui rend plus difficile d'entrer dans un vrai dialogue et dans un compromis nécessaire.
Oui, je voudrais revenir à ce que disait Alain sur qui ramenait Jürgen Habermas dans le débat. Ce débat, si vous voulez, ces élections, c'est vraiment un bras d'honneur à Jürgen Habermas pour une certaine partie. Parce que l'élaboration de son Verfassungspatriotismus. C'est-à-dire, c'est un euphémisme pour dire que l'idée d'État-nation conscient de lui-même n'a plus cours dans le monde qui se globalise et que nous allons vers une ère post-nationale. Que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ça a été démenti par les faits.
Et je réponds par une trieste que nous avons utilisée pendant des années. Heimat, Vaterland, Europa.
Ouais.
Heimat, ça veut dire la région où on est né.
Oui.
Vaterland, la patrie. Et l'Europe, c'est trias. Avec certaines compétences où la patrie a le droit d'exister. C'est-à-dire, je me souviens de grands débats que j'ai eus avec mon chancelier à la fin des années 80, lorsque j'ai réussi à surmonter un terme qui était dans les programmes des chrétiens-démocrates depuis 49, les États-Unis d'Europe.
Ah, oui.
Et mon réflexe était, attention, il y a confusion avec les États-Unis d'Amérique. L'Europe, ce ne sera jamais les États-Unis d'Amérique. Or, ça veut dire que les nations continueront à exister et seront la base nécessaire de notre vivre ensemble.
Oui, je voulais quand même... S'il y avait une analogie historique à faire, ce n'est pas pour caractériser ce qui se passe actuellement en Allemagne du point de vue de la... l'humeur du peuple, j'appelle ça l'humeur du peuple, ça serait peut-être de se rapporter à une période avant la guerre de 14 où il y avait ce Kultur Pessimismus, ce pessimisme de la culture, c'est-à-dire la culture à l'allemand, qui comprend à la fois les problèmes de la culture et de l'identité nationale, qui a été, dont le principal représentant est Oswald Spengler. C'est-à-dire, il y a un malaise actuellement dans la culture allemande. Ce malaise, il tient au fait qu'on ne dit pas vraiment où on va, et surtout que la mémoire allemande reste profondément divisée. J'ai eu, par le fait de mon parcours individuel, parcours personnel, l'occasion de vivre en RDA pendant un an, en plein milieu, en plein stalinisme triomphant. Et j'ai vécu quelques décennies plus tard en République fédérale. Si vous voulez, l'idée même que l'Allemagne se devait de réparer dans le monde entier le mal qu'elle avait fait, qui est devenu la doxa ouest-allemande, n'a pas du tout été donnée à l'Est. C'est-à-dire, nous refusons l'héritage, nous sommes des gens nouveaux, nous n'avons rien à rapprocher. Moyennant quoi,
rien à faire avec le passé.
Arafat, on faisait des attentats à Berlin sans le moindre problème moral.
Oui, mais alors, justement, ce malaise dont vous parlez, Luc Rosenzweig, est-ce qu'il faut tout de suite lui donner un label analogique? Parler d'extrême droite.
Non, Monsieur je Bitterly, pense justement... le malaise. Regardez le malaise. Je pense que ce malaise a été accéléré dans les années, je dirais, à partir de 2007-2008. Pourquoi ? Nous avons vécu, d'un côté, les crises consécutives, d'abord la crise bancaire, la crise financière, économique et autres, importées des États-Unis, certes, mais qui ont démontré les faiblesses de notre système. Et en même temps, nous avons vécu les nouvelles crises dans notre voisinage, au Moyen-Orient, dans le nord de l'Afrique, à l'est avec l'Ukraine et la Russie, et comme si nous avions perdu tout à fait notre connaissance, notre savoir-faire en politique étrangère. D'où un sentiment grandissant d'insécurité, et la politique a réagi comment dans ce contexte? La politique a réagi ce que l'économiste appelle en « crisis management mode ». C'est-à-dire en crisis management au niveau des chefs d'État et de gouvernement, rencontres mensuelles, etc. Mais de manière totalement pragmatique, essayant de trouver des remèdes à court terme, mais ils ont perdu entièrement la perspective ou la prospective, comme on dirait en français, le regard vers le moyen terme et vers l'essentiel.
Oui, mais alors, vous citiez tout à l'heure Helmut Kohl et son grand avertissement. Et j'ai pensé, en vous écoutant, à un livre très important et peu connu en France, Les réflexions sur l'histoire allemande de Thomas Nipperdey, un historien que vous connaissez sans doute mieux que nous, parce qu'il se livre, à la fin de ce livre, à une polémique implicite avec Habermas. Il dit que dans le rejet de la nation, justement culturel, oui. Le patriotisme constitutionnel, recèle une fatale propension à inculquer notre conscience non nationale aux malheureux qui sont encore dans un état déplorable d'arriération. La germanité progressiste avancée post-nationale aurait donc une fois encore la charge de guérir le monde. Le rejet de la nation est une réédition de la particularité allemande. Voilà justement ce qu'il s'agit de dépasser. Et donc, il souhaite en revenir à un nationalisme normal de l'identité et de la préservation de soi. Mais là, je vais poser une question provocatrice. Est-ce que l'AFD, ce n'est pas aussi la volonté d'un retour à ce nationalisme normal, de la préservation de soi? Et je pose d'autant plus volontiers cette question que certains intellectuels allemands, très très célèbres comme Caroline Emke, dans un livre « Contre la haine », qui a eu beaucoup de succès en Allemagne comme en France, eh bien disent tout simplement qu'une culture, une nation homogène, n'est pas par principe meilleure pour un État moderne qu'une nation hétérogène. Donc elle plaide pour l'hétérogénéité. Alors, donc ça voudrait dire que, pour les adversaires de l'AFD en tout cas, l'idée même d'un nationalisme normal est contradictoire dans les termes. Il faut aller au-delà de la nation, vouloir une société post-nationale qui réunisse toutes les identités, qui accepte sa propre hétérogénéité et qui tourne le dos donc à ce que son héritage peut avoir de spécifique. Est-ce que c'est à long terme vivable pour une société,
Luc Rosenzweig? Oui, non, je pense que Caroline Emke est le pendant allemand de toutes les belles âmes françaises qui nous disent qu'il faut ouvrir tout grand les bras à tout le monde et que le mélange généralisé fera le bonheur de l'ensemble du monde et de la France et du monde. Donc, et pour ça, je vais vous dire... on m'a raconté une anecdote qui s'est passée chez quelqu'un équivalent à Caroline Emke, qui avait répondu avec enthousiasme à l'appel de la chancelière Merkel d'accueillir à bras ouverts les réfugiés et qui fait venir deux ou trois Syriens dans sa maison pour les aider à s'intégrer. Et alors, ils font leur travail d'humaniste. Et au bout d'un certain temps, quand ces Syriens ont appris suffisamment d'allemand pour engager une conversation avec nos belles âmes d'Outre-Rhin, ils commencent à leur dire, écoutez, nous Syriens, nous vous admirons beaucoup les Allemands, parce que vous avez réussi ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est-à-dire de vous débarrasser des Juifs. Voilà ce qu'ils entendaient, parce que c'est pour dire que le Syrien, qu'il soit réfugié ou pas, a été... passer au moule de l'éducation, de la formation en Syrie, qui a été fort bien décrit, je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre, Alain, dans le roman graphique de Riyad Satouf, L'Arabe du futur. C'est-à-dire que l'éducation est tout entière orientée vers la victoire ou la suppression du... Et c'est ça que ces belles âmes, genre Caroline Mathieu, reçoivent. Alors ça les interroge un petit peu.
Je vais essayer une autre explication du phénomène de l'AFD. L'AFD est entrée dans un... Elle remplit un certain vide, laissé surtout par les chrétiens démocrates et par les sociodémocrates. Or, ça veut dire, lors du temps d'Helmut Kohl et de Willy Brandt, il y avait un accord tacite entre la SPD et la CDU. Nous n'admettons pas un parti à notre droite, ni à notre droite, ni à notre gauche. Or, la CDU a été, à cette période, ce que Kohl a décrit comme le bateau indonésien, avec un gros ventre au centre, avec deux ailes pour l'équilibrer, une aile à gauche, CDU pour milieu ouvrier surtout, et une aile droite plutôt nationale, Draeger et d'autres à l'époque, et la CSU en partie, Franz Josef Strauß, pour équilibrer le tout, pour donner une patrie, si vous voulez, à ceux qui avaient plutôt un réflexe national plus fort que d'autres. Et ça a marché, je dirais, assez bien jusqu'à l'arrivée des grandes coalitions de ce siècle, avec Madame Merkel. Madame Merkel pilotant la CDU de manière entièrement pragmatique, doublant à gauche, si nécessaire, les sociodémocrates, et anéantissant pratiquement toute limite de parti politique dans un centre large. Or, qu'est-ce qu'on a laissé? L'extrême gauche, si vous voulez, si je l'exprime dans le, comme ils sont assis au Parlement, l'extrême gauche, Die Linke, qui s'est en partie SPD, en partie l'ancien parti communiste, et l'autre côté, ce qui est surgi plus tard, c'est l'AfD. Et or, parce que les deux grands partis ont laissé de côté un électorat qui est, je dirais, suicidable à cette époque.
Justement, Joachim Bitterlich, est-ce que si l'AfD est un parti inquiétant, certains...
Pour moi, oui.
Oui, alors, si, justement, si c'est un parti inquiétant, ne revient-il pas aux autres, aux grands partis, et notamment
absolument
à la CDU, de... non pas simplement d'occuper tout le terrain, mais plus profondément, de prendre en charge l'inquiétude et le souci de préservation de soi dont parle Nipperdey, le prendre en charge, c'est-à-dire d'abord affirmer sa légitimité. Oui. Comme cela, voilà, c'est la meilleure manière de neutraliser l'AfD. Parce que sinon, on lui donne toute la place.
Prenez l'historique de l'immigration des trois dernières années. Moi, je ne peux pas reprocher à Angela Merkel d'avoir laissé la porte ouverte dans le moment où elle a dit « Wir schaffen das ». Nous allons
La question,
réussir.
C'était le vire. Qui c'était?
Non,
qui
mais
était
je,
ce
pense,
qui était ce
je pense... imaginez une seconde, Angela Merkel avait fermé, avait barricadé la frontière. Imaginez les titres des journaux français ou anglais ou américains le lendemain.
Mais on imaginez, pas pour les journaux, quand même.
Imaginez la réaction des médias, des autres.
Oui, oui, mais...
Jamais. Ou, ensuite, elle a essayé de réintroduire un certain contrôle à cette immigration. Ce qu'elle aurait dû faire pour moi, Helmut Kohl m'a demandé, lorsqu'il était encore vivant, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Je dis, c'est simple, vous m'aurez envoyé dans tous les pays du Balkan pour essayer... en amont, lorsque la crise a commencé progressivement, d'assurer, je dirais, un certain contrôle de ces mouvements.
Oui, mais vous voyez bien que le mouvement des Balkans et la nouvelle immigration, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que Luc citait un exemple intéressant, mais moi j'ai encore en mémoire les paroles de Joachim Gauck, qui était alors président de la République allemande. Il a rappelé, au moment du Wir schaffen das, les quatre grandes règles constitutives de l'Allemagne d'aujourd'hui: égalité des hommes et des femmes, respect d'identité des homosexuels, refus de tout antisémitisme, reconnaissance de l'État d'Israël. Pourquoi ce rappel? Parce que les réfugiés, et plus largement les nouveaux migrants, proviennent d'un monde où sévit un tout autre climat, persécution des sodomites, rélégation des femmes, haine des juifs, démonisation d'Israël. Donc ce fossé, là, oui, existe bien.
Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, évidemment, même lorsque vous dites « je vais distinguer entre l'immigration ciblée, souhaitée, l'immigration illégale et les réfugiés », or, même pour les réfugiés, que j'admets pour un certain temps sur mon territoire, il faut, à ce moment-là, s'occuper de les éduquer, de les préparer, de leur faire comprendre dans quelle société ils arrivent. Mais on ne peut pas les laisser seuls. Or là, il y a une lacune de ce que nous avons vécu. Le Gutmensch allemand a fermé les yeux devant ces phénomènes. C'est l'antisémitisme, c'est l'inégalité de la femme, etc. Et on a fermé les yeux pendant un certain temps.
Oui, je voulais
En France.
Je voulais quand même ajouter à ça qu'il y a un phénomène récent qui a apporté aussi de l'eau au moulin de cette crise, qui a été la radicalisation islamiste de la Turquie d'Erdogan.
Oui.
Parce que si vous voulez, pendant les premiers temps de l'immigration turque en Allemagne, La gestion politique et morale de l'immigration turque était naturellement organisée dans le cadre de la Turquie laïque, qui gérait sa population.
Vous connaissez le plus grand ministère de la censure dans le monde, à côté de la Chine?
C'est
le ministère des affaires religieuses en Turquie.
Ouais. Et donc,
jusqu'à présent,
cette radicalisation de l'immigration turque a créé de nouvelles tensions qui n'existaient pas avant.
Oui, alors justement, ce que vous dites m'évoque l'attitude d'Erdogan au moment où il a voulu organiser en Allemagne des meetings de soutien à son référendum qui visait à augmenter ses pouvoirs. L'Allemagne a refusé.
Jusqu'au début des années 90, nous n'avons pas permis des élections turques en Allemagne.
Bah oui.
Parce que nous avions peur des attentats kurdes. Un tiers des Turcs en Allemagne sont des Kurdes.
Angela Merkel a été traitée de nazie, ainsi d'ailleurs que le Premier ministre néerlandais, parce qu'il avait eu la même attitude. Mais surtout, j'ai en mémoire les déclarations d'Erdogan. Pire encore, si l'on peut dire. Il a dit, s'adressant aux Turcs de la diaspora, « Ne faites pas 3 enfants, faites-en 5, vous êtes l'avenir de l'Europe ». Comment voulez-vous qu'un Allemand normalement constitué réagisse à une provocation pareille? Parce que c'est pas simplement une provocation, ça apparaît comme un programme.
Monsieur Finkielkraut, je vais plus loin. Est-ce que Erdogan, en réalité, n'a pas utilisé notre promesse d'entrée dans l'Union européenne de 2003, signée par Schröder et Chirac à l'époque, comme un outil pour changer profondément la Turquie de Kemal Atatürk? Par exemple, l'abolition de la défense du voile pour les femmes dans les universités, un aspect. L'autre a été de renvoyer l'armée dans les casernes. Jusque-là, l'armée avait, dans certaines situations, le dernier mot en Turquie.
Oui, mais oui.
Et il a expliqué aux généraux, chers amis, vous ne pouvez pas garder ce droit vis-à-vis de la politique, parce que nous voulons devenir membres de l'Union européenne, or... un tel État n'est pas admissible en Europe. Rentrez dans les casernes. C'était ça l'argument. Je pense que nous avons sous-estimé totalement en Europe ce développement en Turquie.
Oui, mais ce développement, il est
à peu près 2005.
Il est dû à quoi, à votre avis?
Nationalisme.
Oui, mais ce n'est pas les Européens qui en sont responsables. Est-ce que ce n'est pas plutôt la fermeture d'une parenthèse laïque dans une longue histoire de la Turquie islamique et ottomane?
Oui, mais... et nous aurions dû faire comprendre à la Turquie à ce moment-là, attention, si vous voulez adhérer à l'Union européenne, il n'y a pas de place pour des rêves ottomanes du passé. Regardez l'échec entier de la Turquie et sa politique étrangère au Moyen-Orient. La Turquie avait pensé être, de manière très naturelle, avec l'Égypte, les futurs leaders du Moyen-Orient, mettant de côté l'Arabie saoudite et l'Iran. Aujourd'hui, la Turquie a du mal à rester sur scène face à cet antagonisme, si vous voulez, entre l'Arabie saoudite et l'Iran.
Oui, cette situation, ce durcissement de l'islam turc a ses répercussions. Évidemment, en Allemagne, où la communauté turque est la plus importante, et de loin, de toutes les communautés immigrées, a été perçue, non pas par les écrivains, les intellectuels et les journalistes de l'Allemagne, mais a été perçue par des élus locaux. Des élus locaux comme, par exemple, un maire social-démocrate, encore une fois, du quartier de Neukölln, à Berlin, qui s'appelle Heinz Buschkowski. Je dis son nom parce que ce type-là a été très courageux.
Courageux, extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Eh bien, il a dit, écoutez, voilà, ça ne peut plus continuer comme ça, ce qui se passe dans mon quartier, qui a 90% turc. Il y a les profs ne veulent plus rester dans les lycées. Il y a des bagarres, il y a de la délinquance, il y a des mariages forcés, il y a des meurtres, des crimes d'honneur qui se passent tous les jours dans notre arrondissement. Je veux y mettre fin. Et qu'est-ce qu'il dit pour y mettre fin ? Eh bien, je ne veux pas qu'on leur verse la totalité des aides sociales auxquelles ils ont droit, mais que la moitié de ces aides sociales soit utilisées à mettre des infrastructures spécifiques pour qu'on puisse intégrer ces gens-là. Et c'est une... Je conseille d'ailleurs à Jean-Michel Blanquer d'aller faire un tour à Neukölln pour voir comment ils en sont sortis. Parce que, si vous voulez, il y a en Allemagne, ce qui est spécifique aussi du pays, une décentralisation des questions d'éducation. Il a dit, bon, pour les Turcs, ou toute cette population-là, on va mettre, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, on va mettre l'école toute la journée. Et on mangera à l'école. Deuxièmement, le problème, c'est il faut faire sortir les mères de chez elles. Parce que ce qui se passe, dans, c'est que le travailleur turc qui a réussi, qui a trouvé du boulot...
Aujourd'hui, troisième génération.
Oui, mais, ce qui a, mais ils vont quand même chercher leur femme dans le bled anatolien, qui est bouclé à la maison, qui ne parle pas allemand.
Tout va bien si le jeune turc ramène une allemande à la maison, mais si la fille turc ramène donc, un allemand à la maison, c'est terminé.
Il a constitué des brigades des mères parmi la population immigrée qui sont allées persuader ces femmes de sortir de chez elles et d'aller apprendre l'allemand.
Et ça, et disons, et c'est, des, c'est une entreprise déjà couronnée de succès.
Ah, oui, oui,
on
oui.
envoie les premiers fruits.
On envoie les premiers fruits, effectivement. Donc, la cité scolaire de Neukölln.
Non, parce que vous avez toutes les générations de Turcs à Berlin. Berlin est la cinquième ville turque aujourd'hui.
Cinquième ville turque.
Et vous avez des Turcs entièrement intégrés, aucun problème, qui font des études, qui ont des entreprises, marchent très bien. Mais vous avez d'autres où, je dirais, la maman qui vient d'un atelier ne parle toujours pas un mot d'allemand. Et vous avez le phénomène, je dirais, du réflexe familial. Et, par exemple, nous avions évité la double nationalité avec les Turcs. Nous avons cru éviter. Or, qu'est-ce qui se passe? Le Turc qui demande son passeport allemand, on lui demande une attestation de la part de la Turquie qui n'est plus citoyen turc. Ouais. Très bien, le consulat turc établit cette attestation. Le Turc arrive à la mairie à Berlin, obtient son passeport allemand et sur le chemin de retour, il passe au consulat turc pour obtenir son passeport. Et j'ai eu des débats farouches avec différents ambassadeurs turcs en Allemagne et leur raisonnement était, oui, tu as raison, ce n'est pas juste ce que nous faisons, mais nous devons le faire à cause du droit d'héritage turc. C'est assez complexe à cet égard.
En effet.
Je vais juste rajouter un petit mot pour terminer sur,
oui.
enfin, pour, sur ce sujet-là.
Oui.
C'est que, au début, lorsque M. Bouchkovski a lancé ses idées, il s'est pris une volée de bois vert de toute la presse berlinoise qui lui a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est une pensée d'extrême droite.
Voilà, c'est pour ce concept peut être opératoire, celui d'extrême droite, mais il doit être manié avec pertinence, avec acuité, avec justesse.
Il pourrait même l'appliquer dans les banlieues
oui,
en
monsieur,
France.
Je sais pas, je dirais à M. Blanquer d'aller voir ce qui se passe là-bas.
Bon, bah écoutez, j'espère qu'il écoute cette émission. Mais maintenant, je voudrais en revenir à des considérations plus politiques. Le paysage allemand, l'Allemagne empêtrée, l'Allemagne empêchée, disais-je en commençant. Angela Merkel a entamé des négociations avec les Verts et avec les libéraux. Ces négociations ont échoué. La coalition jamaïcaine ne verra pas le jour. Et j'ai appris à ce moment-là que les libéraux allemands avaient une position très sceptique à l'égard de l'Europe et hostile à la politique des portes ouvertes d'Angela Merkel. Ce qui m'a étonné, parce que ce n'est pas conforme à l'image que je me faisais des libéraux. Est-ce à dire qu'ils sont plus proches de l'AFD que des autres partis politiques? Et ont-ils évolué? Comment expliquer leur attitude actuelle, qu'il s'agisse de l'Europe ou de la question des frontières?
Ouais, pour faire un bon mot, mais j'irai au-delà. On peut dire que le FDP revient à ses sources. Hein, parce que si on se souvient quel était le programme du FDP à la première élection de la République fédérale en 1949, c'était arrêter la dénazification. C'était en gros, sur les affiches, c'était le ramassis des anciens nazis. Naturellement, au fur et à mesure des années, le FDP a évolué en un parti, disons, des classes intellectuelles et des professions libérales. C'est-à-dire, c'est devenu le parti des, comme on disait, des avocats et des pharmaciens. Et donc, un parti qui était parti charnière entre les deux grandes masses qui étaient les chrétiens démocrates.
Ils pouvaient se lier aux social-démocrates comme aux chrétiens démocrates.
C'est ça.
Ils pouvaient se lier à partir de la fin des années 60.
Qu'ils poursuivaient un objectif, la défense du libéralisme économique en gros. Ce n'était pas les porte-parole de la grosse industrie, c'était surtout de toute la classe moyenne et moyenne supérieure des professions libérales. Comme il disait, vous ne pouvez pas être un grand parti, wir sind klein, aber fein. Nous sommes petits mais chics. Hein. Donc, Il, chaque fois qu'un parti allait trop loin dans le sens de sa nature, il s'en allait pour voir avec l'autre parti ce qu'il pourrait faire. C'est-à-dire, il a appuyé les sociaux-démocrates dans leur Willy Brandt, lorsqu'il a dit il faut débloquer cette société après 68, ce qui était sous le mot d'ordre mère démocratie Wagen, oser plus de démocratie, là les clés, et puis sur la politique à l'Est.
Mais hors ce pays, hors ce parti, il souffre d'un traumatisme. Ouais. Ils sont entrés l'avant-dernière fois avec 14% des voix au gouvernement de Madame Merkel, pour terminer aux prochaines élections à 4%, sorti du Bundestag. Or, ce parti cherche depuis lors ce que j'appellerais sa nouvelle niche au sein de la politique allemande, non ?
Oui, alors, ce qui est fabuleux avec le Linder, c'est qu'il a pris le FDP dans un état plus bas que terre. Il en a fait un parti entreprise. C'est-à-dire, il avait cherché, mais vraiment, par des cabinets d'audit, où doit-on situer notre ligne politique. Et lorsque on veut comprendre un peu l'Allemagne, il faut aller quelquefois regarder du côté de l'Autriche. Les Autrichiens sont des Allemands sans surmoi. Hein. Et il lorgne du côté aussi du rôle que joue l'équivalent du FDP en Autriche, qui est le
FPÖ.
Bon, en se disant...
Partiellement comparable.
Oui, j'ai dit, attendez, en se disant, il fait le pari un peu macronien, en disant, les vieilles structures, il a 42 ans, hein, les vieilles structures partidaires sont vouées à dépérir. Je vais m'inscrire dans une autre logique, qui est la logique d'un parti entreprise qui cherche sa niche là où il doit la trouver. Et où se trouve sa niche aujourd'hui ? À droite de la CDU.
À droite de la CDU, oui. Donc, alors,
n'est c'est... plus au centre-gauche, comme à la fin des années 60,
voilà.
Lorsque mon grand professeur Mayhofer était un des leaders des libéraux, où il y avait un programme, je dirais, centre-gauche et droite des libéraux. Il y a une tendance claire vers la droite.
Il y a une tendance vers la droite des libéraux. Et donc, ce qui explique l'échec des négociations, parce qu'on ne voit pas comment ils pouvaient s'entendre.
L'échec est apparu par un phénomène choquant pour Lindner, pour les libéraux. Il a dû constater que tout d'un coup, la CSU, l'aile droite, si vous voulez, de la CDU, totalement déstabilisée par les résultats en Bavière, a commencé à se mettre d'accord avec les Verts sur des questions comme l'immigration, sur des questions sociales et autres. Or, tout d'un coup, Lindner ne voyait plus de niche pour lui, pour son parti, au sein d'un tel gouvernement. Il a pris la fuite en avant, calculée, entièrement calculée.
Pour des raisons de survie politique.
Survie politique.
Mais, ah, d'accord.
Je crois que Angela Merkel n'était pas très enthousiaste à avoir à gérer pendant 4 ans mais les libéraux à gauche et les verts à droite.
Attention, on avait, on avait chez les libéraux deux tendances. Une, on va participer au gouvernement, ce que la majorité dans leur électorat veut. Une minorité a dit non, nous ne sommes pas mûrs. Chez les Verts, même phénomène, nous avions une légère majorité, surtout dans le sud de l'Allemagne, en faveur d'une entrée dans le gouvernement. Et vous aviez une autre exprimée par M. Trittin, qui a fait tout pour saboter l'existence d'un accord.
Donc cette coalition ne verra pas le jour. Des négociations ont commencé entre Martin Schulz et Angela Merkel pour reconduire la grande coalition.
Et la CSU, ne jamais oublier la CSU.
Et la CSU, donc le...
Le demi-frère, j'appelle la CSU le demi-frère bavarois.
La CSU,
parce qu'elle joue un rôle important aujourd'hui.
Les conservateurs bavarois. Ouais. Donc, deux questions. Cette négociation a-t-elle des chances d'aboutir? Et si elle aboutit, cela ne va-t-il pas permettre, justement, à l'AFD et aux libéraux aux nouvelles manières d'incarner une opposition forte? Puisque le terrain leur sera abandonné, le terrain de l'inquiétude, de la politique, de la survie de la nation, en quelque sorte. Et cela ne présage-t-il pas pour ces deux partis des succès futurs et des succès qui vous inquiéteraient ?
Ce que CDU et progressivement ou lentement la SPD ont compris, c'est il ne faut pas aller rapidement vers de nouvelles élections, parce que ce seraient des élections qui donneraient encore plus de voix à l'AFD.
Ah oui.
D'où le réflexe, on va former un gouvernement, soit sous forme de grande coalition, ou bien si nécessaire, également, dans une coalition minoritaire, vu la position assez forte de la chancelière ou du chancelier dans le système allemand. Moi, je suis convaincu qu'au mois de janvier, Angela Merkel sera réélue.
Et au mois de janvier, ce qui voudrait dire vous placer dans la perspective de nouvelles élections.
Non. Elle sera réélue chancelière.
Réélue chancelière.
Par le Bundestag.
Bundestag.
Et vous êtes convaincu de cela? Et vous pensez que la grande coalition verra le jour ou sur ce
Si je devais faire un pronostic, je dirais à 70%, ce sera une nouvelle grande coalition et à 30%, ce sera un gouvernement minoritaire à temps. Mais avec un accord avec les partis, sauf l'AFD, comment organiser certains domaines.
Ah oui, d'accord.
Oui, ce matin, dans le Spiegel, il y avait une formule assez piquante pour décrire la réunion qui a eu lieu cet après-midi chez le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, entre Angela Merkel, Martin Schulz et Horst Seehofer, qui représentent la CSU. Il appelait ça la réunion des éclopés. C'est-à-dire que les trois partis arrivent là, pleins de plaies de bosses, en se disant on ne peut pas aller soigner à la bobine de jouvence durant l'élection, parce qu'on risque de revenir avec en plus deux urbains noirs supplémentaires. Donc, il va bien falloir qu'on trouve quelque chose.
Mais ce sera difficile pour les sociodémocrates.
Oui. Donc, il y a eu un incident, et ça me permet de parler du glyphosate.
Il
y a eu un incident
qui montre
la faiblesse actuelle
d'Angela Merkel. Oui, puisque son ministre n'en a fait qu'à sa tête.
Il y a eu un vote décisif à l'Union européenne sur le glyphosate.
Pour la réattribution du...
Laissez-moi terminer.
Pardon.
C'est la perception. Luc parle de la perception. C'est pas la réalité.
Il y a un vote. Dans le premier vote, il y a un mois, l'Allemagne s'était abstenue. Dans ce vote.
En raison du désaccord entre le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.
Il n'y avait pas plus d'accord dans le gouvernement cette fois-ci qu'il n'y en avait, puisque la ministre de l'écologie était contre, et le ministre de l'agriculture bavarois était pour. Donc, le ministre de l'agriculture prend sur son bonnet de voter quand même, parce que ça a été décisif, non seulement pour que la résolution passe, parce que ça a entraîné d'autres pays à voter pour, qu'ils n'avaient pas fait la première fois. Bien, donc, ce que ça veut dire, alors, normalement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si un ministre outrepasse ses compétences ou les accords qui ont été pris, normalement, on le vire tout de suite. Mais non, il n'a pas été viré parce que le problème de la CDU, en ce moment, c'est celui de la CDSU. Et si j'avais un pari à faire, je dis que le gouvernement qui va sortir peut-être de la grande coalition durera jusqu'aux élections de Bavière de l'octobre 2018. Si la CSU se refait et parvient à sauver les meubles, eh bien, il durera encore un peu. Sinon, la crise reprendra et on recommencera comme on est aujourd'hui.
Alors, je rappelle que le glyphosate est un herbicide très controversé et que le vote allemand a été décisif dans l'autorisation de son usage pour les 5 ans à venir par l'Union européenne, au grand dam d'ailleurs, notamment du gouvernement français. Est-ce que vous avez un mot pour conclure sur ce thème, Joachim Bitterlich?
Je ne suis pas d'accord avec Luc sur cette affaire. Il est vrai, ce ministre a dépassé les règles existantes au sein du gouvernement, correct. Il a pensé pouvoir le faire par une raison. Il a atteint beaucoup plus que tout autre ministre, tout autre gouvernement avait atteint jusqu'alors vis-à-vis de la Commission. Deux, la Commission était libre de décider seule dans cette affaire et de prolonger, comme elle a voulu, le glyphosate pour 5 ans. D'abord, elle voulait 10 ans, et ensuite, elle a dit 5 ans. Et Christian Schmidt, a négocié avec la Commission une utilisation restreinte pendant ces 5 ans. Peut-être on aurait pu atteindre même 3 ans, mais il a atteint beaucoup plus que Français,
ce que Français
et Allemands avaient atteint avant. il y a eu un couac. Je dirais un certain couac comme à Paris, en parallèle. Moi, il ne faut pas surestimer cet incident.
D'accord, je comprends. Et ça ne met pas en péril, à votre avis, les négociations actuelles ?
Non,
les sociodémocrates ont pensé l'affaire.
Oui, ils ont classé l'affaire.
Évidemment, sur la thèse de Luc sur l'importance des élections bavières, je le comprends entièrement. La CSU sortira affaiblie de ces élections. Elle aura du mal à former un futur gouvernement en Bavière, on le verra. Cette partie est déstabilisée par des querelles à la tête, surtout, et par la direction générale. Mais je pense que ce gouvernement, à une grande coalition, va durer plus longtemps que l'on pense. Et qu'à la fin, Angela Merkel va définir elle-même le moment où elle quittera la politique. C'est mon pari.
C'est elle qui le finira elle-même. Elle ne sera pas chassée du pouvoir.
Bon. C'est mon pari.
Et elle est partie pour un quatrième mandat. Elle ne va pas décider de s'arrêter toute seule. Et donc votre pari...
Elle s'arrêtera un jour.
Elle s'arrêtera un jour.
Ce sera le jour
surprise. Le jour où elle voudra.
Et pour le moment, elle ne veut pas.
Elle tient à sa responsabilité.
Elle
voit qu'elle est responsable, de certaine manière, pour la situation existante. Elle veut sortir l'Allemagne de cette situation, je dirais, qui est assez difficile à plusieurs égards.
Elle y a mis un peu dans cette situation, non ? Vous ne direz pas cela ?
Sur l'explication, je suis d'accord. Mais alors, c'est-à-dire qu'elle veut réparer le dégât qu'elle a produit elle-même. Ça, c'est tout à fait protestant et tout à fait honorable. Mais je serais moins, disons, du point de vue de Merkel, optimiste que Joachim, parce que je pense que le malaise dans la culture que j'ai défini au début, il n'a pas fini de se mettre en marche. Est-ce que ça peut produire d'autres choses
Luc, on a un problème. Il n'y a pas de débat à cet égard. Justement. Sauf le débat de quelques intellectuels qui sont plutôt, pour moi, dépassés. Dépassés et peu réalistes à la réalité allemande.
Bah, ce débat au moins aura eu lieu ici sur les antennes de France Culture et soyez-en remerciés, Joachim Bitterlich et Luc Riesenzweig. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Littérature et politique. Mon invité sera Édouard Philippe. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pascal Bénard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.